Aristote, Métaphysique, livre 5, chapitre 16 à 30. Chapitre 16. Parfait se dit d'abord de ce en dehors de quoi il n'y a rien, pas même une seule partie. Ainsi, telle durée déterminée est parfaite, lorsqu'en dehors de cette durée, il n'y a pas quelque durée qui soit une partie de la première. On appelle encore parfait ce qui, sous le rapport du mérite et du bien, n'est pas surpassé dans un genre particulier. On dit un médecin parfait, un parfait joueur de flûte, lorsqu'il ne leur manque aucune des qualités propres à leur art. Cette qualification s'applique par métaphore même à ce qui est mauvais. On dit un parfait sycophante, un parfait voleur. On leur donne bien le nom de bon, un bon voleur, un bon sycophante. Le mérite d'un être est aussi une perfection. Chaque chose, chaque essence est parfaite lorsque, dans le genre qui lui est propre, il ne lui manque aucune des parties qui constituent naturellement sa force et sa grandeur. On donne encore le nom de parfaite aux choses qui tendent à une bonne fin. Elles sont parfaites en tant qu'elles ont une fin. Et, comme la perfection est un point extrême, on applique métaphoriquement ce mot même aux choses mauvaises, et l'on dit « cela est parfaitement perdu, parfaitement détruit, lorsqu'il ne manque rien à la destruction et au mal, lorsqu'ils sont arrivés au dernier terme ». C'est pour cela que le mot « parfait » se dit métaphoriquement de la mort. L'un et l'autre sont le dernier terme. Enfin, la raison pour laquelle on fait une chose est un but final, une perfection. Parfait en soi s'entend donc alors ou de ce à quoi il ne manque rien de ce qui constitue le bien, de ce qui n'est point surpassé dans son propre genre, ou de ce qui n'a en dehors de soi absolument d'aucune partie. D'autres choses, sans être parfaites par elles-mêmes, le sont en vertu de celles-là, ou parce qu'elles produisent la perfection, ou parce qu'elles la possèdent, qu'elles sont en harmonie avec elles, ou bien parce qu'elles soutiennent quelque autre espèce de rapport avec ce qui est proprement appelé parfait. Chapitre 17. Terme se dit de l'extrémité de chaque chose, du point à partir duquel il n'y a plus rien, en deçà duquel est tout. C'est aussi la limite des grandeurs, ou des choses qui ont grandeur. Enfin, le but de chaque chose, j'entends le point où aboutit le mouvement, l'action, et non pas le point de départ. Quelquefois néanmoins, on donne également ce nom au point de départ, au point d'arrêt, à la cause finale, à la substance de chaque être et à son essence, car ces principes sont le terme de la connaissance, et comme terme de la connaissance, ils sont aussi le terme des choses. Évidemment, d'après cela, le mot « terme » a autant d'acceptions que celui de « principe », et plus encore. Le principe est un terme, mais le terme n'est pas toujours un principe. Chapitre 18. En quoi ou pourquoi se prend sous plusieurs acceptions. Dans un sens, il désigne la forme, l'essence de chaque chose. Ainsi, ce en quoi on est bon, c'est le bien en soi. Dans un autre sens, il s'applique au sujet premier dans lequel s'est produit quelque chose. Ainsi, au plan qui a reçu la couleur. En quoi ou pourquoi dans son acception première, signifie donc d'abord la forme et en second lieu la matière, la substance première de chaque chose. En un mot, il a toutes les acceptions du mot « cause ». En effet, on dit « Pourquoi est-il venu ?» tout aussi bien que « Dans quel but est-il venu ?» « Pourquoi a-t-on fait un paralogisme ou un syllogisme ?» dans le sens de « Quelle a été la cause du syllogisme ou du paralogisme ?» Pourquoi et en quoi se dit encore de la position, ce pourquoi l'on est debout, ce pourquoi l'on marche. Dans ces deux cas, il s'agit de la position et du lieu. D'après cela, en soi et pour soi s'entendra nécessairement aussi de plusieurs manières. En soi signifiera l'essence de chaque être, ainsi qu'alias et l'essence propre de Kalias. Il exprimera ensuite tout ce qui se trouve dans la notion de l'être. Kalias est en soi un animal, car dans la notion de Kalias se trouve l'animal. Kalias est un animal. En soi s'entend aussi du sujet premier qui a reçu en lui ou dans quelques-unes de ses parties quelques qualités. Ainsi, le plan en soi est blanc. L'homme en soi est vivant, car l'âme, partie de l'essence de l'homme, est le principe de la vie. Il se dit encore de ce qui n'a pas de cause autre que soi. Il est vrai que l'homme a plusieurs causes, l'animal, le bipède. Cependant, l'homme est homme en soi et pour soi. Il se dit enfin de ce qui ne se trouve que dans un seul être et en tant qu'il est seul. C'est dans ce sens que ce qui est isolé existe en soi et pour soi. Chapitre 19. La disposition est l'ordre de ce qui a des parties, ou par rapport au lieu, ou par rapport à la puissance, ou par rapport à la forme. Il faut bien, en effet, qu'il y ait là une certaine position, comme l'indique le nom même, disposition. Chapitre 20. État, dans un sens, signifie l'activité ou la passivité en acte. Par exemple, l'action ou le mouvement. Mais, entre l'être qui agit et celui qui subit l'action, il y a toujours l'action. Entre l'être qui porte un habit et l'habit porté, il y a toujours un intermédiaire, le port de l'habit. Évidemment, le port de l'habit, ce ne peut être l'état de l'habit porté, car on irait à l'infini si l'on disait que l'état est l'état d'un état. Dans un autre sens, état se prend pour disposition, situation bonne ou mauvaise d'un être, ou en soi, ou par rapport à un autre. Ainsi, la santé est un état, car elle est une disposition particulière. État s'applique encore aux différentes parties dont l'ensemble constitue la disposition. Dans ce sens, la force ou la faiblesse des membres est un état des membres. Chapitre 21. Passion se dit d'abord des qualités que peut alternativement revêtir un être. Ainsi, le blanc et le noir, le doux et l'amer, la pesanteur et la légèreté, et toutes les autres qualités de ce genre. Dans un autre sens, c'est l'acte même de ces qualités, le passage de l'une à l'autre. Passion, dans ce dernier cas, se dit plutôt des qualités mauvaises. C'est surtout aux tendances déplorables et nuisibles que ce nom s'applique. Enfin, on donne le nom de passion à un grand, un cruel malheur. Chapitre 22. On dit qu'il y a privation, ou bien quand un être n'a pas quelque qualité qui ne doit point se trouver en lui, qu'il n'est pas dans sa nature d'avoir. C'est dans ce sens qu'on dit qu'une plante est privée d'yeux. Ou bien, lorsque cette qualité devant naturellement se trouver en lui ou dans le genre auquel il appartient, il ne la possède pas cependant. Ainsi, l'homme aveugle est privé des yeux d'une toute autre manière que la taupe, car dans le dernier cas, la privation est un fait général, dans l'autre, c'est un fait individuel. Il y a encore privation lorsqu'un être devant naturellement avoir une qualité et à une époque déterminée ne l'a pas cette époque venue. La cécité est une privation. Mais on ne dit point qu'un être est aveugle à un âge quelconque, mais seulement qu'il n'a pas la vue à l'âge où il doit naturellement l'avoir. Il y a également privation lorsqu'on n'a point telle faculté dans la partie où on doit l'avoir, appliquée aux objets auxquels elle doit s'appliquer, dans les circonstances et de la manière convenable. La suppression violente s'appelle encore privation. Enfin, toutes les négations marquées par la particule « un » ou tout autre semblable expriment autant de privations. On dit qu'un objet est inégal lorsqu'il n'a point l'égalité qui lui est naturelle, invisible quand il est absolument sans couleur ou quand il est faiblement coloré. On appelle « sans pied » celui qui n'a pas de pied ou qui en a de mauvais. Il y a aussi privation d'une chose lorsqu'elle est en petite quantité. Un fruit sans noyau pour un fruit qui n'a qu'un petit noyau. Ou bien, lorsque cette chose se fait ou difficilement ou mal. Insécable ne signifie pas seulement qui ne peut être coupé, mais qui se coupe difficilement, qui se coupe mal. Enfin, privation signifie manque absolu. On n'appelle pas aveugle celui qui ne voit que d'un œil, mais celui qui ne voit ni de l'un ni de l'autre. D'après cela, tout être n'est pas ou bon ou méchant, ou juste ou injuste. Il y a des intermédiaires. Chapitre 23. La possession s'exprime de plusieurs manières. D'abord, elle indique ce qui imprime une action en vertu de sa nature ou d'un effet propre. Ainsi, on dit que la fièvre tient l'homme, que le tyran tient la ville, que ceux qui sont vêtus ont leurs vêtements. Elle s'entend aussi de l'objet qui subit l'action. Par exemple, l'airain a la forme d'une statue, le corps a la maladie. Puis, de ce qui enveloppe par rapport à ce qui est enveloppé, car l'objet qui en enveloppe un autre le contient. Nous disons, le vase contient le liquide, la ville contient les hommes, le vaisseau les matelots. De même encore, le tout contient les parties. Ce qui empêche un être de se mouvoir ou d'agir selon sa tendance retient cet être. C'est dans ce sens que l'on dit que les colonnes soutiennent les masses qui les surmontent. Qu'Atlas, comme s'expriment les poètes, soutient le ciel. Sans soutien, il tomberait sur la terre, ainsi qu'on le prétend dans quelques systèmes de physique. C'est encore dans le même sens que l'on applique le mot « tenir » à ce qui retient les objets. Sans cela, ils se sépareraient en vertu de leur force propre. Enfin, le contraire de la possession s'exprime d'autant de manières que la possession et qui correspondent aux expressions que nous venons d'énumérer. Chapitre 24. Être ou provenir de s'applique dans un sens à ce dont une chose est faite, ainsi la matière. Et dans ce sens, il y a un double point de vue. La matière première, ou bien telle espèce particulière de matière. Exemple du premier. Ce qui est fusible provient de l'eau. Second point de vue. La statue provient de l'airain. Dans un autre sens, il se dit du principe du mouvement. D'où provient le combat, par exemple? de l'insulte, parce qu'elle est le principe du combat. Il s'applique aussi à l'ensemble de la matière et de la forme. Ainsi, les parties proviennent du tout, un vers de l'Iliade. Les pierres viennent de la maison, car une forme est une fin, et ce qui a une fin est parfait. Sous un autre point de vue, le tout vient de la partie. Ainsi, l'homme vient du bipède, la syllabe de l'élément. Mais ils n'en viennent pas comme la statue vient de l'airain et la substance composée vient de la matière sensible. L'espèce vient de la matière de l'espèce. Outre ces exemples, l'expression dont il s'agit s'applique aux choses qui proviennent de quelqu'une de ces manières, mais proviennent seulement d'une partie déterminée. C'est dans ce sens qu'on dit que l'enfant vient du père et de la mère, que les plantes viennent de la terre, parce qu'ils viennent de quelqu'une de leurs parties. Provenir, dans un autre sens, n'indique que la succession dans le temps. Ainsi, la nuit vient du jour, la tempête du calme, pour dire que l'un suit l'autre. Quelquefois, il y a retour de l'un à l'autre, comme dans les exemples que nous venons de citer. D'autres fois, il y a succession invariable. Ainsi, on est parti à la suite de l'équinoxe pour aller en mer, c'est-à-dire après l'équinoxe. L'éthargélie à la suite des dionysiaques, pour dire après les dionysiaques. Chapitre 25. Partie, dans un sens, se dit de ce en quoi on peut diviser une quantité quelconque. Car toujours, ce qu'on retranche d'une quantité en tant que quantité s'appelle partie de cette quantité. Ainsi, 2 peut être considéré comme partie de 3. Dans un autre sens, on donne seulement ce nom à ce qui mesure exactement les quantités. De sorte que sous un point de vue, 2 sera partie de 3 et sous l'autre, non. Ce en quoi peut se diviser un genre, le genre animal par exemple, autrement que sous le rapport de la quantité, s'appelle encore partie de ce genre. Dans ce sens, les espèces sont des parties du genre. Partie se dit aussi de ce en quoi peut se diviser un objet, ou de ce qui constitue le tout, ou la forme, ou ce qui a la forme. L'airain, par exemple, est une partie de la sphère ou du cube d'airain. Il est la matière qui reçoit la forme. L'angle est aussi une partie. Enfin, les éléments de la définition de chaque être particulier sont encore des parties du tout. De sorte que, sous ce point de vue, le genre peut être considéré comme partie de l'espèce, sous un autre, au contraire, l'espèce est partie du genre. Chapitre 26. Tout s'entend de ce à quoi il ne manque aucune des parties qui constituent naturellement un tout, ou bien de ce qui embrasse d'autres êtres s'il a l'unité et des êtres embrassés s'il forme une unité. Sous ce dernier point de vue, 2 cas se présentent. Ou bien chacun des êtres embrassés est un, ou bien l'unité résulte de leur ensemble. Ainsi, pour le premier cas, l'universel, car l'universel reçoit le nom de tout, comme désignant un ensemble, l'universel est universel parce qu'il embrasse plusieurs êtres à chacun desquels il s'applique et que tous ces êtres particuliers forment une unité commune, par exemple, homme, cheval, Dieu, parce que ce sont tous des êtres vivants. Dans le second cas, le continu déterminé s'appelle tout ou ensemble, parce qu'il est une unité résultant de plusieurs parties intégrantes, surtout lorsque ces parties sont en puissance, quelquefois aussi lorsqu'elles sont en acte. Les objets naturels ont plutôt ce caractère que les objets d'art, comme nous l'avons fait remarquer à propos de l'unité, car le tout ou l'ensemble est une espèce d'unité. Ajoutons que les quantités ayant un commencement, un milieu et une fin, les choses pour lesquelles la position n'apporte aucun changement sont appelées tout. Celles qui subissent un changement par la position sont appelées ensemble. Celles qui peuvent réunir les deux caractères sont à la fois ensemble et tout. Telles sont celles dont la nature reste la même dans le déplacement des parties, mais dont la forme varie. Ainsi, la cire, un habit, on applique à ces objets les expressions de tout et d'ensemble, car ils ont les deux caractères. Mais l'eau, les corps liquides, les nombres, reçoivent seulement la dénomination de tout. Le mot « ensemble » ne s'applique ni au nombre, ni à l'eau, si ce n'est par métaphore. L'expression « tous » s'applique aux choses que l'on appellerait « tout » en les considérant comme unité. Si on les considère comme divisés, on leur applique le pluriel. Tout ce nombre, toutes ces monades. Chapitre 27. Tronqué se dit des quantités, mais non point de toutes au hasard. Il faut non seulement qu'elles puissent être divisées, mais encore qu'elles forment un ensemble. Le nombre 2 n'est pas tronqué si l'on retranche une des deux unités, car la partie enlevée par mutilation n'est jamais égale à ce qui reste de l'objet. Il en est de même de tous les nombres. Pour qu'il y ait mutilation, il faut que l'essence persiste. Quand une coupe est mutilée, c'est encore une coupe. Or, le nombre, après le retranchement, ne reste pas le même. Il ne suffit pas toutefois pour qu'il y ait mutilation que les parties de l'objet soient différentes. Il y a des nombres dont les parties diffèrent. Ces parties peuvent être 2 et 3. En général, il n'y a pas de mutilation pour les choses dans lesquelles l'arrangement des parties est indifférent, telles que le feu et l'eau. Il faut, pour qu'il y ait mutilation, que l'arrangement des parties tiennent à l'essence même de l'objet. Il faut de plus qu'il y ait continuité, car il y a dans une harmonie des tons différents, disposés dans un ordre déterminé, et cependant, on ne dit jamais qu'une harmonie est tronquée. Joignez à cela que cette expression ne s'applique ni à tout ensemble quelconque, ni à un ensemble privé d'une partie quelconque. Il ne faut pas qu'on enlève les parties constitutives de l'essence. L'endroit qu'occupaient les parties n'est pas non plus indifférent. Une coupe n'est point mutilée lorsqu'elle est percée. Elle l'est lorsque l'anse, le bord, a été retranché. Un homme n'est point mutilé pour avoir perdu une partie de son embonpoint ou la rate, mais s'il a perdu quelque extrémité. Et cela non pas même pour toutes les extrémités. Il faut que ce soit une extrémité qui, une fois retranchée, ne puisse jamais se reproduire. Voilà pourquoi on ne dit pas des chauves qu'ils sont mutilés. Chapitre 28. Genre ou race s'emploie d'abord pour exprimer la génération continue des êtres qui ont la même forme. Ainsi, on dit « tant que subsistera le genre humain » pour dire « tant qu'il y aura génération ininterrompue des hommes ». Il se dit aussi par rapport à ce dont les êtres dérivent, au principe qui les a fait passer à l'être, les Hellènes, les Ioniens. Ces noms désignent des races parce que ce sont des êtres qui ont les uns Hellènes, les autres Ions, pour premier auteur de leur existence. Race se dit plutôt par rapport au générateur que par rapport à la matière. Toutefois, le genre vient aussi de la femme. Ainsi, on dit la race de Pyrrha. Dans un autre sens du mot genre, le plan est le genre des figures planes, le solide des figures solides, car chaque figure est ou tel plan ou tel solide. Le plan et le solide en général sont les sujets qui se différencient dans les cas particuliers. Dans les définitions, on donne le nom de genre à la notion fondamentale et essentielle dont les qualités sont les différences. Telles sont les diverses acceptions du mot « genre ». Il s'applique donc ou à la génération continue des êtres qui ont la même forme, ou à la production d'une même espèce par un premier moteur commun, ou à la communauté de matière. Car ce qui a différence, qualité, c'est le sujet commun. C'est ce que nous appelons la matière. On dit qu'il y a différence de genre lorsque le sujet premier est différent, lorsque les choses ne peuvent se résoudre les unes dans les autres, ni rentrer toutes dans la même chose. Ainsi, la forme et la matière diffèrent par le genre. Et il en est de même de tous les objets qui se rapportent à des catégories de l'être différentes. On sait que l'être exprime tantôt la forme déterminée, tantôt la qualité, et toutes les autres distinctions que nous avons précédemment établies. Ces modes, en effet, ne peuvent ni rentrer les uns dans les autres, ni se résoudre dans un seul. Chapitre 29. Faux s'entend d'une manière de la fausseté dans les choses. Et lorsqu'il y a fausseté, ou parce que les choses ne sont pas réellement, ou parce qu'il est impossible qu'elles soient. Comme si l'on disait par exemple que le rapport de la diagonale au côté du carré est commensurable, ou que vous êtes assis, l'un est absolument faux, l'autre l'est accidentellement, car dans l'un et l'autre cas, le fait affirmé n'est pas. Faux se dit encore des choses qui sont bien réellement, mais qui apparaissent autrement qu'elles ne sont ou ce qu'elles ne sont pas. Par exemple, une silhouette, un songe. Ils ont bien quelques réalités, mais ils ne sont point les objets dont ils représentent l'image. Ainsi, on dit que les choses sont fausses, ou parce qu'elles ne sont pas absolument, ou parce qu'elles ne sont que des apparences et non des réalités. Une définition fausse est celle qui exprime des choses qui ne sont pas. Je dis fausse en tant que fausse. Ainsi, toute définition quelconque sera fausse quand elle portera sur un autre objet que celui relativement auquel elle est vraie. Par exemple, ce qui est vrai du cercle est faux du triangle. La définition de chaque être est une sous un point de vue, car on définit par les sens. Sous un autre point de vue, elle est multiple, car il y a l'être en soi, puis l'être avec ses modifications. Il y a Socrate et Socrate musicien. Mais la définition fausse n'est proprement définition de rien. Ces considérations montrent la sottise de ce que dit Antisthène, qu'on ne peut donner d'un même être qu'une seule définition, la définition propre. D'où il résulterait qu'il n'y a pas de contradiction, et en dernier résultat, que rien n'est faux. Mais remarquons qu'on peut définir chaque être non point seulement par sa propre définition, mais encore par celle d'un autre être. Définition fausse alors, ou absolument fausse, ou vraie sous un point de vue. On peut dire que 8 est double, et c'est là la notion même du nombre 2. Telles sont les diverses significations du mot « faux ». On dit qu'un homme est faux lorsqu'il aime, lorsqu'il recherche la fausseté sans aucun autre but, mais pour la fausseté elle-même, ou bien lorsqu'il pousse les autres à la fausseté. C'est dans ce dernier sens que nous donnons le nom de fausse aux choses qui offrent une image fausse. C'est donc une fausseté que cette proposition de Lippias, que le même être est à la fois véridique et menteur. Socrate appelle menteur celui qui peut mentir, et par là, il entend celui qui est instruit et adroit. Il ajoute que celui qui est méchant volontairement vaut mieux que celui qui l'est involontairement. Et cette fausseté, il prétend l'établir par une induction. Celui qui boit à dessein vaut mieux que celui qui boit involontairement. Et par boiter, on entend imiter un boiteux. Mais en réalité, celui qui boiterait à dessein serait pire assurément. Il en est de cela comme de la méchanceté dans le caractère. Chapitre 30. Accident se dit de ce qui se trouve dans un être et peut être affirmé avec vérité, mais qui n'est cependant ni nécessaire ni ordinaire. Supposons qu'en creusant une fosse pour y planter un arbre, on trouve un trésor. C'est accidentellement que celui qui creuse une fosse trouve un trésor, car l'un n'est ni la conséquence ni la suite nécessaire de l'autre. Et il n'est pas ordinaire non plus qu'en plantant un arbre, on trouve un trésor. Supposons encore qu'un musicien soit blanc. Comme ce n'est ni nécessaire ni général, c'est là ce que nous nommons un accident. Si donc une chose, quelle qu'elle soit, arrive à un être, même avec circonstances de lieu et de temps, mais qu'il n'y ait pas de cause qui détermine son essence, soit actuellement, soit dans tel lieu, cette chose sera un accident. L'accident n'a donc aucune cause déterminée. Il n'a qu'une cause fortuite. Or, le fortuit, c'est l'indéterminé. C'est par accident qu'on aborde Aegine, quand on n'est point parti avec l'intention d'y aller, mais qu'on y est venu poussé par la tempête ou pris par les pirates. L'accident s'est produit, il existe, mais il n'a pas sa cause en lui-même. Il n'existe qu'en vertu d'autre chose. C'est la tempête qui a été la cause que vous avez abordée là où vous ne vouliez point. Et ce lieu, ça a été Aegine. Le mot « accident » s'entend encore d'une autre manière. Il se dit de ce qui existe de soi-même dans un objet, sans être un des caractères distinctifs de son essence. Telle est cette propriété du triangle que ses trois angles valent deux angles droits. Ces accidents peuvent être éternels. Les accidents proprement dits ne le sont point. Nous en avons donné raison ailleurs. Fin du livre cinquième.